Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Pourquoi pas moi ? Le thème de ce deuxième épisode porte sur les métiers de l'art. Nous irons à la rencontre de Cédric Poulain, photographe et chercheur en sciences, Nicolas Faubert, danseur et directeur artistique de l'association Hort Street, et Antoine Panier, producteur de musique classique et directeur artistique du e-label Les Belles Écouteuses. Bonjour Cédric Poulain, vous êtes photographe et chercheur en sciences. Pourriez-vous nous parler de votre maladie avant votre parcours de vie, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. J'ai eu quelques soucis de santé au sortir de l'adolescence. Suite auquel j'ai perdu la vue quelques années plus tard par un virus qui s'est attaqué à mon nerf optique sur les deux yeux. Donc je suis non-voyant, je suis totalement aveugle d'un œil et je n'ai pas de vision centrale. Donc je vois, pour ainsi dire, des ombres.
Concernant la photographie, qu'est-ce qui a fait que vous vous orientiez sur cette voie ?
Alors, en réalité, j'ai connu la photographie bien avant d'être non-voyant, puisque j'ai été non-voyant vers les 28 ans, quelque chose comme ça. J'ai connu la photographie au collège par l'entremise d'une option au collège qui était une option audiovisuelle assez sérieuse, où on apprenait à faire du montage vidéo, de la photographie argentique, etc. Et ensuite, j'ai poursuivi de mon côté tout seul en autodidacte au collège et au lycée. Et j'ai même failli faire des études de photographie. Et puis, je me suis orienté vers des études scientifiques à ce moment-là. Lorsque j'ai perdu la vue, j'ai pensé que c'était terminé, la photographie pour moi.
Comment est-ce que de faire de la photographie quand on est non-voyant ? Parce que pour quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de valide, ça peut paraître extrêmement surprenant, puisque la photographie, c'est l'image et donc c'est la vision.
En fait, mon souhait, c'était de pouvoir faire de la photographie différemment. Étant de formation scientifique, je me suis posé des questions sur la formation d'une image. J'ai réalisé qu'en réalité, les images se forment à partir du noir, on va dire. J'ai réalisé que je pouvais développer une technique donc, que j'ai appelée la noctographie, où en fait j'allais partir du noir et donc je travaille dans le noir total, dans un barnum, dans une tente totalement opaque, et je prépare une scène au moyen du toucher et j'illumine les objets que je souhaite mettre dans mon image photographique, point par point dans l'image, lorsqu'ils apparaissent sous mes doigts. Donc mon but avec cette technique, en fait, c'est de donner à voir au moyen de la photographie, un monde que je ne vois pas, mais que je perçois au moyen du toucher, et de traduire par ce vecteur-là les émotions que j'ai au moment de la prise photographique. Donc c'est une technique qui m'est propre et que j'ai dû mettre au point. Il y en a probablement d'autres, mais elle me permet de travailler de manière quasiment totalement autonome au moyen du toucher.
Et j'imagine que vous avez déjà exposé. Quelle est la réaction des personnes voyantes à votre travail ?
Non, j'ai toujours plutôt eu la chance d'avoir un public très, très enthousiaste. Les gens sont frappés, effectivement, d'avoir une personne non-voyante qui fait des photographies avec, effectivement, une technique particulière. Il faut dire que mes noctographies sont aussi un petit peu particulières, puisqu'elles sont sur fond noir, puisque je travaille donc avec des noirs très très profonds.
Je vais vous poser une question un peu intrusive. Vous arrivez à en vivre de votre art ?
C'est une bonne question. Il serait peut-être possible d'en vivre. Pour l'instant, ça n'a pas été mon souhait. J'ai fait ça alors beaucoup plus que comme un hobby. Hein. C'est une passion. Et néanmoins, c'est quelque chose. Je tends à me professionnaliser de plus en plus au niveau de la photographie, je veux dire dans ma pratique, dans les résidences d'artistes ou les expositions.
Et si vous aviez un conseil à donner à une personne malvoyante ou aveugle qui a envie de s'orienter sur cette voie, que serait-il ?
Ah oui, alors ça c'est une question difficile. Moi j'ai eu la chance d'apprendre la photographie alors en autodidacte, mais aussi avec des yeux surtout. Et puis d'avoir c'est le démarrage qui est difficile, et j'ai eu la chance d'apprendre ça auprès de mon père et d'une formation scolaire. Donc c'est une chance. Mais je pense qu'une chose qui prime, c'est d'écouter ses rêves et de croire à ses rêves, de croire à ses envies et d'aller au bout. Et peu importe, il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent, il ne faut pas écouter ce que la société vous pousse à faire. Je pense qu'il faut s'écouter soi-même et c'est ça qui est le plus moteur.
Et vous avez conscience quelque part que vous êtes un vecteur hein, parce que vous pouvez transmettre aussi hein, cette passion et cet apprentissage auprès de jeunes générations.
Mais je serais ravi d'échanger à ce sujet avec eux. Je pense qu'effectivement, cette technique pourrait tout à fait permettre à d'autres non-voyants de travailler la photographie, c'est certain. Je pense qu'il y a plein de moyens d'expression en fait, qui sont offerts aux handicapés visuels en particulier. Oui.
Est-ce que vous pourriez nous dire où avez-vous exposé récemment ou de manière moins récente ?
Oui, alors j'ai eu la chance d'être exposé à deux reprises au Festival Voix Off en Arles. J'ai été finaliste du prix photo Caméra Clara. Voilà, et je candidate actuellement à des résidences d'artistes.
Eh bien, merci beaucoup Cédric pour votre témoignage. Et maintenant, nous sommes avec Nicolas. Bonjour Nicolas, vous êtes danseur, chorégraphe et directeur artistique. Dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de votre maladie et ensuite de votre passion, qui est donc votre métier ?
Alors, je suis danseur, je n'aime pas le terme chorégraphe, je suis agence des mouvements, on va dire, et je suis acteur culturel et actuellement artiste plasticien. Je suis malvoyant, plus de 90%. Je suis né avec une cataracte interne et externe, puis un strabisme qui s'est transformé en glaucome et m'a laissé un champ visuel réduit et une vue sans cristallin.
Et comment en êtes-vous venu à la danse ?
La danse, on va dire que c'est par la force des choses. Je cherchais à me trouver, donc mon propre métier, le lycée, ça n'allait pas, la vie, ça n'allait pas. Donc au bout d'un moment donné, y avait la danse qui était toujours là. Quand j'étais tout seul, je m'ennuyais, ça me regardait de temps en temps dans mon parcours de vie. Et un jour, j'ai décidé de me professionnaliser. Donc je suis allé à la salle Poussin à Elbeuf. Et voilà comment tout a commencé, 19 septembre 2009.
Et au départ, vous ne vous êtes pas dit, en dehors de la passion pour la danse, ça va être compliqué hein, d'en faire mon métier.
Franchement, depuis que je suis petit, on me dit que rien n'est pour moi. Donc en soit, au bout d'un moment donné, ça va être déterminé. Quand l'épide te refuse, l'armée te refuse, les cursus scolaires, c'est un peu bizarre, je me suis dit, je vais commencer comme un professionnel. Et ça va être ça jusqu'à la fin de ma vie. Point. Et après, le monde des battles, puis ensuite les organisations, puis on continue, on commence d'Elbeuf, on part à Rouen, Paris, le monde entier. Et après, on devient qui on est aujourd'hui.
Mais alors, en quoi ça consiste ? Je me mets dans la peau d'une personne valide qui se dit, mais comment fait cet artiste pour danser, sachant que la danse, la chorégraphie, c'est la vision. Il faut suivre les pas, donc il faut se concentrer visuellement.
Alors, la danse, c'est le corps, et la vue est un sens parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres sens, comme la proprioception, déjà. Et après, c'est sûr, pour le côté chorégraphique, et pour l'agencement de mouvement, il faut avoir une bonne mémoire corporelle et une bonne dextérité. Après, la dextérité, ça se travaille à force de pratique. Donc, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. À cette époque-là, que je perdais quand même la vue, je trouvais des manières de faire. En sachant que moi, à la base, je suis issu des danses du hip-hop, donc qui sont des danses freestyle, qui s'apprennent, certes, avec la chorégraphie, etc. Mais moi, c'est plus dans l'agencement de mouvement, dans le freestyle, dans l'accompagnement, dans le caractère, donc en tant que soliste.
Et vous nous avez dit que vous êtes danseur et en même temps enseignant. Vous enseignez à qui exactement ?
Je suis actuellement à l'Institut des jeunes aveugles en tant qu'enseignant. Ça fait 2 ans déjà. Et aussi aux valides, parce que en tant que danseur et pédagogue, je fais mon nom.
Quelle est la différence d'apprentissage quand vous êtes face à des jeunes danseurs malvoyants par rapport aux valides en fait ?
Sois toi-même déjà, pas peur, tu vois, ton corps déjà il t'appartient, en sachant que le corps c'est ton véhicule, c'est le véhicule de ton âme, et surtout toutes les informations en fait sont déjà là, donc tu danses déjà mais sans le savoir. La marche c'est une danse, c'est de la dissociation, de la coordination, il y a du rythme. Le battement du cœur, c'est une rythmique, c'est la musique, donc c'est ta rythmique. Donc ça veut dire que tu peux déjà commencer à t'approprier et à conscientiser. Puis ensuite après, je te fais comprendre que tous les mouvements du quotidien et des façons de faire, c'est juste des concepts de mouvement en fait, pour que tu puisses justement être en confiance. Parce que c'est pas apprendre des mouvements le plus difficile, c'est que la personne elle puisse se sentir en confiance. Parce qu'une fois que la confiance elle est établie, eh, tu peux obtenir tout le monde. J'invite à toujours à la liberté et à expérimenter.
Et dernièrement, vous vous êtes produit où ? Sur quelle scène on a pu vous retrouver ou on peut vous retrouver ?
La dernière scène sur laquelle je me suis produite, c'était à la fin d'un festival qui est Art Basel, donc un gros festival qui est Art Basel Paris Plus, qui est un gros festival d'art contemporain.
Quel conseil vous pourriez donner à une personne malvoyante ou aveugle qui voudrait faire de la danse ?
L'information, c'est le plus important. Si tu as la bonne information, tu trouveras la bonne personne. Et surtout, de la détermination. C'est-à-dire que si tu es informé, que tu es déterminé, tu vas réussir à te créer justement ton parcours en apprenant les compétences, peu importe la situation.
Et l'information, pardon, on la trouve où l'information ?
Il y a des écoles de danse, il y a plein de studios de danse, il y a des belles vidéos aussi sur YouTube. Après, tu as des applications qui sont sorties aujourd'hui, donc Meet Your Artist, par exemple, que bah, on peut retrouver sur Android ou sur Apple Store. Il y a le CND.
Est-ce que vous pourriez nous parler de vos différentes collaborations ?
Alors, celles qui sont les plus importantes pour moi, le pavillon français de la 58e Biennale de Venise, donc avec leur provo. Je me suis retrouvé acteur principal de son film et a performé 7 mois là-bas. Ensuite, après, bah, mes collaborations à la Cité internationale des arts de Paris, une collaboration avec la Bourse de commerce et l'Institut des jeunes aveugles l'année dernière, donc avec mon collègue Gabriel Moraes-Aquino aussi, et toute mon équipe, donc mon association. Il y a eu aussi avec la mairie de Paris 18e, la Fondation Fimenco, avec qui on organise pas mal d'événements, justement, qui visent à mettre le quartier musée, musée au quartier en croisement. Le musée Paul Éluard, donc avec qui on va justement organiser le prochain Battle Peace, donc qui est un battle qui sera entre danse, donc danse marginale, danse commerciale, mais aussi art contemporain dans sa plasticité pure. Le musée A4 en Chine aussi, avec le docteur André Mermoz aussi, Suisse Visio, donc voilà, avec lequel on est en train de préparer beaucoup de projets sur la déficience visuelle, et si tout va bien, bah, un programme de résidence d'artistes qui vise justement à faire croiser les médecines, donc entre tous ces docteurs internationaux sur la médecine douce, la médecine dure, et à travailler justement des dispositifs d'accessibilité et la rencontre avec les artistes, et bien sûr avec Audemars Piguet. Il y a la ville de Rouen, il y a la ville du Havre aussi.
Ah, important.
Je vais me faire tuer, la métropole. Là, l'association Earth Street.
Merci. Vous êtes un passionné en tout cas. Merci beaucoup Nicolas. Bonjour Antoine, vous êtes producteur de musique classique. Dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de votre handicap et ensuite nous dire ce qui a fait que vous vous orientiez sur cette voie de la musique classique ?
Alors, j'ai une rétinite pigmentaire, donc un handicap visuel, avec un peu étant malvoyant, encore un peu un reste visuel selon le temps et la luminosité. Et étant mélomane et musicien depuis tout petit, quand j'ai découvert cette maladie autour de 15 ans, bah, j'ai décidé de m'orienter plus tard vers un métier autour de la musique.
Donc c'était une passion depuis petit, hein, mais qu'est-ce qui a fait au fur et à mesure du temps que vous pensiez à cette passion comme devenant un métier ?
Je pense que ça a toujours été là, et puis après le handicap visuel étant également présent, en sachant qu'il allait sûrement s'aggraver au fil des années, et en réfléchissant à quel métier j'allais pouvoir faire, on était dans les années 90, ce qui n'était pas encore simple pour les gens qui avaient une rétinite pigmentaire à ce que ça soit compris, connu, on s'est dit avec mes parents qu'il serait bien que je m'oriente vers ma passion en fait, tout simplement.
Quel a été le cursus que vous avez emprunté ?
Alors, j'ai eu la chance, par rapport à mon handicap, que ma vue ne se soit vraiment dégradée en ce qui concerne les déplacements, la lecture, l'écriture, à la fin de mes études, en fait, bien après. Donc, j'ai bénéficié quand même d'agrandissements pour les polycopiés, pour les partitions, quand je me suis retrouvé en fac de musicologie, mais j'ai toujours suivi un parcours ordinaire.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé là actuellement ?
J'ai cherché pendant un moment quel métier vraiment faire. Donc j'ai souhaité mettre toutes ces compétences pour aider les artistes et qu'ils puissent développer leur partie administrative et puis également leur communication, donc par l'enregistrement et par la diffusion de concerts autour des enregistrements.
Est-ce que vous pouvez expliquer à une personne lambda quel est votre travail au quotidien ?
Donc, mon rôle de directeur artistique des Belles Écouteuses, alors il est également celui du créateur du label, de trouver des artistes qui vont me plaire, qui jouent des programmes, qui humainement ont l'air d'être de belles rencontres possibles, et donc de leur proposer de développer, parce qu'aujourd'hui c'est très dur de pouvoir trouver un label qui accepte d'enregistrer. Alors il y a l'autoproduction, ce qui est très bien, mais l'autoproduction, les musiciens, ils ont leurs concerts, ils ont leurs cours, ils ont leurs répétitions, ils sont à droite à gauche, donc c'est de leur dire, autour d'un label, on va pouvoir vous enregistrer, vous éditer et puis vous aider à diffuser vos concerts ainsi que votre communication autour de Internet, des réseaux sociaux, de la presse, etc.
Et en termes de production, une fois que vous les avez dénichés, si je puis dire, quel est votre rôle ?
Moi, j'ai une excellente oreille. Je suis pour l'enregistrement en binôme avec un ingénieur du son qui, lui, garde la partition. Là, c'est là où il reste peut-être un écueil par rapport à mon handicap, c'est que le matériel, même si on parle de musique, est très visuel. C'est souvent maintenant du tactile, donc il faut pouvoir regarder avec des écrans ce que l'on fait. Alors après, je peux aussi le faire à l'oreille, mais
c'est plus compliqué.
Au four et au moulin, c'est compliqué. Le but, voilà, c'est d'être leur oreille extérieure et surtout leur dire, vous êtes dans la partition, dans ce que vous jouez depuis des mois. Vous avez vos habitudes, il faut bien comprendre que le produit finit quelque part, que souvent ça leur sert aussi à reproduire ce qu'ils n'arrivaient pas toujours à faire en concert avant l'enregistrement et qu'ils peuvent arriver à le faire mieux, encore mieux, vu qu'on a répété et re-répété pour arriver à la meilleure prise, de pouvoir justement se dire, le public sera content parce qu'effectivement, on a mis tous les moyens. Et surtout, quand on a un ou deux musiciens encore, ils peuvent s'entendre, mais quand vous avez 10 musiciens sur un plateau, ils ne peuvent pas tout entendre parce qu'il y a la distance de la salle, il y en a un qui est à gauche, l'autre qui est tout à droite. Donc le rôle du directeur artistique dans son casque, dans la régie, c'est d'entendre tout le monde et de pouvoir dire ce qui manque ou ce qui ne manque pas. Voilà.
Les artistes qui travaillent auprès de vous ont-ils une admiration, je vais quand même dire ce mot. Est-ce qu'il y a une acceptation, une confiance de plus ?
Oui et non, j'ai envie de dire qu'il y a les deux cas, c'est-à-dire que, mais le plupart des cas, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a le premier cas où justement le fait de ne pas pouvoir lire la partition, ça peut les faire tiquer un peu sur le moment ou même au moment de la post-production. Même on a certains artistes avec qui on travaille maintenant depuis 15 ans qui reviennent parce que justement ils ont bien compris qu'ils avaient un petit plus, est-ce que j'ai pas la partition ? Un peu des fois pour se prendre 5 minutes et se poser des questions, des réflexions musicales, musicologiques qui ne s'étaient jamais posées.
Et en dehors de votre professionnalisme, quelle est la plus grande satisfaction dans votre métier ?
Les rencontres humaines, les rencontres musicales qu'on peut faire, les rencontres auprès du public aussi. Et puis effectivement, c'est vrai que si ça permet de montrer que le handicap est aussi une force et qu'on peut justement trouver des solutions à son handicap, c'est assez important. Après, moi, le plus important pour moi est de me faire plaisir dans ma passion et
bien
le fait
sûr
de produire des disques, d'aider des artistes, c'est ma passion, donc j'en suis. Et c'est vrai que je suis assez fier par contre un peu de mon bébé, des Belles Écouteuses.
Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de certains artistes connus ?
On a eu deux artistes de l'ensemble intercontemporain en musique contemporaine autour d'un projet qui était pour l'anniversaire de Pierre Boulez. Après, on travaille avec des salles prestigieuses. On a un ensemble des Monts du Reuil qui sont en résidence à l'Opéra de Reims. On a travaillé, là, c'était uniquement pour leurs archives, avec l'ensemble Academia, qui est un ensemble de musique ancienne assez connu pour les gens qui apprécient. On travaille aussi beaucoup avec une association qui s'appelle Jeunes Talents à Paris, qui a, elle, 25 ans et qui a quand même mis... Donc, le concept, c'est de donner sa chance à des jeunes musiciens, et certains sont devenus de très grands talents, comme les Frères Capuçon. On a l'ensemble Marie-Lou, qui est un tout jeune ensemble de musique ancienne, et quand les passionnés regardent leur nom, je les connais, je les ai entendus dans tel ou tel ensemble.
Si vous deviez donner un conseil à une personne malvoyante ou aveugle qui aimerait faire le même travail que vous, que serait-il ?
Je pense que ça serait plutôt d'échanger directement avec elle et plutôt échanger les parcours. Le plus important, c'est surtout d'avoir la chance d'avoir autour de soi une famille, des amis qui encouragent. Mon grand projet, c'est le braille musical. Mais il faut avoir cette force un peu. C'est vrai que le handicap peut donner parfois une certaine colère, une certaine fatigue. Et ce qui est le plus dur, c'est de la transformer en force et de la transformer en énergie pour justement se développer et surtout réussir ses passions et ses rêves.
Et vous avez fait...
Les Belles Écouteuses, c'est pas forcément un rêve immense, mais en tout cas, moi, c'est un rêve qui se réalise.
Merci beaucoup, Antoine. Merci aux invités pour leur témoignage et leur sincérité. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi.
Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin Ahuy et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi ?